BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure H. On se dépêche, on est un peu en retard. Tout de suite, je vous dis que notre invité, premier invité, sera le président de la French American Foundation, Alain Papias. Bonjour.
Bonjour Edwige.
Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi un des big boss de BNP Paribas et notamment vous chapeautez BNP Paribas aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et c'est important. On reviendra sur tout ce climat géopolitique difficile. Je recevrai François Barraud de l'IDAT. On parlera de la 5G, surtout après les déclarations d'Emmanuel Macron que vous avez pu suivre en direct. Et puis Bernard Charles, le patron d'Assosystèmes, sera avec nous à partir de 12h30. Pour l'instant, c'est Thomas Asportas qui nous apporte l'essentiel de l'info. Bonjour Thomas.
Bonjour Edwige. Bonjour à tous. Et vous venez d'entendre la conférence de presse d'Emmanuel Macron à l'issue de sa visite en Chine. Le chef de l'État repart avec une quinzaine de milliards de dollars de contrats pour les entreprises françaises, en tout cas le chiffre qui a été donné par les autorités chinoises, des contrats dans l'aéronautique, l'agroalimentaire, la finance ou encore les énergies, et notamment un contrat d'1 milliard d'euros pour Engie. La France et la Chine ont également signé un protocole d'entente autour du fameux contrat d'Orano dont on vous parlait hier avec Philippe Varin pour son usine de traitement de combustible. Les deux pays doivent se mettre d'accord maintenant d'ici au 31 janvier 2020 sur le prix, le site et l'exécution du projet. Emmanuel Macron qui a par ailleurs profité de cette visite d'État pour réaffirmer l'engagement de la France en faveur du climat aux côtés de la Chine. Pour les deux pays, l'accord de Paris est un processus irréversible, une boussole. Cet appel de Pékin, comme l'ont nommé les deux pays, intervient 2 jours après la notification officielle par les États-Unis de se retirer de l'accord de Paris. Retour en France où le sujet qui monte depuis hier, bien sûr, c'est la question de l'immigration professionnelle. Édouard Philippe vient de dévoiler ses premières pistes à l'issue d'un comité interministériel avec la confirmation de la mise en place de quotas ou d'objectifs quantitatifs pour l'immigration professionnelle. Ce sera dès l'été 2020 pour répondre aux besoins des métiers en tension. En Allemagne, un bon chiffre à vous donner. Pour une fois, les commandes à l'industrie ont progressé au mois de septembre et dans des proportions plus fortes qu'attendues, plus 5,3%. Les PMI, en revanche, sont restés en territoire de décroissance au mois d'octobre. Dans l'actualité des entreprises, c'est un nouveau trimestre mitigé pour Société Générale. La banque publie des résultats inférieurs aux attentes. Les revenus ont baissé de 8,4%, le bénéfice de 35%. La banque paye toujours aussi cher ses efforts de restructuration dans ses activités de marché et d'investissement. Mais la bonne nouvelle pour les marchés qui a été saluée en bourse aujourd'hui sur le CAC, c'est que Société Générale a encore réussi à renforcer sa solvabilité au troisième trimestre. Du côté de la tech, et d'après le Wall Street Journal, on pourrait bientôt assister à une fusion de deux anciennes gloires de la Silicon Valley. Xerox pourrait en effet dégainer une offre à 27 milliards de dollars pour acheter HP. Alors, aucun commentaire de la part des deux entreprises, mais HP et Xerox, effectivement, sont en bien moins bonne position qu'il y a quelques années. Et une fusion, toujours d'après le Wall Street Journal, pourrait dégager 2 milliards de dollars d'économies annuelles. Et puis, pour finir, SoftBank paye très, très cher les déboires de deux de ses participations stars, Uber et WeWork. Entre juillet et septembre, SoftBank a accusé une perte d'exploitation de 5,8 milliards d'euros. C'est la pire performance trimestrielle de l'histoire de SoftBank. Pour son patron, la situation est très claire. Les comptes sont minables, pour reprendre ces termes. Et c'est largement donc à cause de très grosses dépréciations passées chez Uber et chez WeWork. BFM Business, bientôt midi 5. On file sur les marchés à la mi-journée. Le CAC 40 est dans le vert, gagne 0,27% à 5862 points. Nouveau plus haut annuel. L'euro-dollar progresse très légèrement de 0,14%. 1 euro s'échange pour 1,1089 $.
Merci Thomas. On vous retrouve bien sûr à 12h30 pour le rappel des titres. Tout de suite, c'est Alain Papias, le président de la French American Foundation, qui est avec nous.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Alain Papias, merci encore une fois d'être avec nous parce que vous êtes très souvent aux États-Unis puisque vous êtes en charge de BNP Paribas USA, mais aussi de Grande-Bretagne. C'est important, on y viendra un mot. Et puis vous êtes bien sûr le président de la Banque de Financement et d'Investissement de BNP Paribas. Je ne vous demanderai pas de commentaires sur les résultats de la Société Générale parce que je crois que vous n'avez aucune envie d'en faire. Vous êtes surtout là en tant que président de la French American Foundation qui fait son grand gala, c'est son rendez-vous annuel. On va quand même expliquer à nos auditeurs et téléspectateurs, c'est une vieille dame, la French American Foundation, c'est vraiment pour saluer les liens entre les États-Unis et la France. Il y a juste un petit bug en ce moment, c'est que les liens, ils ne sont pas terribles, moins qu'on puisse dire. Comment est-ce que vous vivez cette relation difficile entre les Américains et les Français ?
Écoutez, comme vous le savez, la French American Foundation a été créée en 1976 par les présidents Valéry Giscard d'Estaing et Gerald Ford. Nous sommes deux associations quelque part cousines, hein, puisque nous avons notre...
Oui, il y a le versus américain versus français.
Versus français. Et en fait, l'objectif des deux présidents à l'époque, c'était de faire, de cultiver, au travers d'un certain nombre de programmes, l'amitié entre la France et les États-Unis, je dirais, quelles que soient les discussions, les tensions politiques qui pourraient arriver dans le futur. De ce point de vue-là, comme vous le savez, on a trois programmes phares. On a le programme des Young Leaders qui a été créé pratiquement dès l'origine, qui permet en fait à des Américains, tous les ans, une dizaine et 10 Français, de connecter au travers d'un programme commun de travail pendant un an et de rester très connectés. Et cette association perdure dans le temps et en fait, moi je crois beaucoup au contact personnel dans la durée.
Mais est-ce que vous ressentez, et ce programme est formidable parce que j'en fais partie, donc je voulais c'est vrai que c'était une chance incroyable parce qu'on va aux États-Unis, on rencontre des gens de sa génération plus ou moins, et puis en France il y a tous les politiques et chez les entreprises qui sont passés par là. Mais en ce moment, vous sentez cette tension? Est-ce que vous le ressentez?
Oui, je dirais, on sent dans les affaires économiques de la tension, puisque il suffit de vous écouter tous les jours pour voir les négociations sur le trade, les difficultés, les taxations éventuelles de certains produits européens, etc. Il n'empêche que dans le business, et de façon aussi surprenante, beaucoup d'entreprises, et dans les Young Leaders, on a de plus en plus de gens qui font de la tech, qui peuvent la faire en France, la faire aux États-Unis, la faire éventuellement sur les deux continents, et on sent que cette volonté d'avancer entre la France et les États-Unis reste fondamentale. Ouais. Et qu'en fait, je crois que les Américains, d'ailleurs comme les Français qui sont engagés dans ces programmes, se disent que, comme dans toutes les vieilles histoires, parce que la France et l'Amérique, c'est un très très vieux couple, il y a des hauts, il y a des bas, mais que fondamentalement, les deux pays doivent coopérer sur un certain nombre de sujets, et je ne sens pas dans le business de tension majeure.
Oui, donc c'est vraiment au niveau du président Trump, pour ne pas le nommer. Juste à la papiasse, est-ce que c'est difficile d'être une banque française, même très importante comme BNP Paribas, aux États-Unis et de gérer la présence, sachant que vous avez une grosse banque qui est sur la base ouest des États-Unis?
Oui.
Bank of West.
Sur ce sujet, je crois que la réponse est assez simple. On est une banque internationale qui est là pour accompagner ses clients à l'étranger. Oui. La plupart des grands groupes américains et des grandes entreprises européennes ou asiatiques ont des développements internationaux. Et en fait, la crise de 2008 a considérablement réduit le nombre d'acteurs qui peuvent les accompagner dans un certain nombre de pays.
Ça, c'est ce qui est écrit dans votre prospectus, hein, si je puis me permettre.
Mais c'est la réalité.
Mais est-ce que, en ce moment, vous avez de plus en plus d'entreprises françaises qui vous disent, nous, on a envie d'abord ne serait-ce parce qu'il y a une big bank fiscale, on a envie d'aller bosser aux États-Unis, travailler aux États-Unis. Donc, est-ce que vous voyez ce phénomène-là ou au contraire, vous en voyez qui vous disent ça devient quand même très difficile de travailler avec les États-Unis en étant français, donc on se replie plutôt sur d'autres territoires?
Ça reste dans beaucoup de domaines un des premiers marchés au monde. L'Europe est par ailleurs un marché extrêmement important pour les entreprises américaines. Donc, je pense que quand les gens ont des véritables projets industriels ou de services, ça ne se pose pas de difficultés. Après, il peut y avoir des sujets.
Donc, pour vous, il n'y a aucun impact? Non, c'est bizarre parce que vous êtes un peu le seul à nous dire ça, mais alors que vous êtes quand même le
plus important. Les gens réfléchissent, mais si le projet fait du sens, et je pense que dans les développements internationaux, beaucoup de projets font du sens, ils savent que ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, il peut y avoir des complications, mais fondamentalement, ça reste deux marchés extrêmement
proches. Oui, mais est-ce qu'il y en a plus ou pas?
Ça dépend des périodes et ça dépend
du secteur. En ce moment, où il y a tension géopolitique, il y a un Donald Trump qui dit, si vous voulez travailler aux États-Unis, c'est simple, il faut produire aux États-Unis, qui fait un big bang fiscal. Vous voyez, ils peuvent en pas dans n'importe quelle période. Hein.
Oui, mais pour un certain nombre de grands groupes, la production, y compris pour des questions de profitabilité, justifie d'avoir des usines sur place. Mmh. Et donc, de toute façon, moi je sens que il y a sûrement un tout petit peu plus de tension actuellement, mais fondamentalement, dans des stratégies long terme d'entreprise, les États-Unis restent un marché incontournable. Et l'Europe, pour les Américains, reste un marché incontournable également.
Vous croyez en la souveraineté de l'Europe? Je dis ça à la fois au président de la French American Foundation et à la fois au patron...
Alors, peut-être qu'un jour, on sera le European American Foundation. Aujourd'hui, on est la France.
C'est une bonne idée.
Mais je crois que l'Europe a des cartes à jouer aux États-Unis et est de plus en plus reconnue comme un continent qui est en voie d'intégration.
Oui. C'est important, en tout cas c'était le mot qu'a employé et qu'emploie très souvent le président Macron hein, pour expliquer qu'il faut que l'Europe joue un rôle et ne soit pas perdue entre les Chinois et les Américains. Un point quand même sur ce grand rendez-vous de la French American Foundation, vous faites venir Charles Bolden.
Oui.
Expliquez-nous pourquoi.
Alors pourquoi je dirais pour deux raisons. D'abord on a trouvé en tant que Français et franco-américain pour beaucoup que c'était l'année où il fallait célébrer un événement absolument unique qui était le premier pas de l'homme sur la Lune.
Pour ça, je vous laisse le dire. Oui.
Qui était le début de la conquête spatiale, quelque part. La deuxième raison, c'est que Charles Bolden, je crois, est un véritable héros américain. C'est quelqu'un qui est né dans un état très ségrégué, en 47, la Caroline du Sud, qui est ensuite, qui a été un héros du Vietnam, qui a fait 4 vols spatiaux dans la navette spatiale américaine, puis qui a été nommé par le président Obama, administrateur de la NASA, c'est-à-dire le patron de la NASA, et qui a été l'homme à qui le président Obama a demandé de développer le partenariat public-privé entre la NASA et des acteurs privés, d'où quelque part l'origine de SpaceX, etc., etc. Et troisièmement, parce qu'on l'a reçu à Paris au mois de février, c'est un homme qui, je crois, compte tenu de son passé et de ses convictions, fait énormément de choses pour les jeunes défavorisés. Il est d'ailleurs beaucoup intervenu cette année sur les campus américains, dans les entreprises américaines, y compris chez BNP Paribas, dans ce qui était la Black Week, hein, pour mettre en valeur les cadres noirs. Et la French American Foundation, en dehors des Young Leaders, qui peut être considéré comme un peu l'élite américano-française, a lancé il y a 2 ans un programme très important sur les Young Talents. On a démarré à Lyon d'ailleurs, avec des jeunes défavorisés de banlieue qu'on envoie quelques jours aux États-Unis. Dans des summer camps de villes difficiles ou de quartiers difficiles de Manhattan, et où ils participent avec des jeunes Américains à la formation, etc. Souvent des jeunes qui parlent pas encore très bien anglais, qui découvrent l'Amérique pour la première fois, qui souvent n'ont jamais voyagé. Et je pense que c'est très complémentaire aussi de l'action de Charles Bolden.
Oui, alors ce qui est intéressant aussi, c'est dans les Young Leaders, juste parce que c'est sur l'évolution. Moi, quand je l'ai fait, c'était quand même malheureusement il y a quelques temps, il y a une grosse vingtaine d'années. Les autres ont sorti sous de grandes écoles, où il y a beaucoup d'inspecteurs des finances, ou des hommes politiques, mais qui sortaient la Cour des comptes, puisqu'il y avait aussi François Hollande, enfin, on avait beaucoup de personnalités comme ça. Du côté américain, c'était, je m'en souviens très bien, d'un quelqu'un issu des minorités, un Mexicain qui dirigeait une ville très très importante sur la côte ouest des États-Unis, des profils très différents. Nous, on était très classiques. Aujourd'hui, quand on regarde le côté français, il y a des profils qui sont de plus en plus non classiques.
Absolument.
Ouais. C'est une évolution de la société, c'est intéressant.
Exactement. Ben, je crois que le jury qui est présidé par Agnès Touraine, quelque part, a évolué au cours des années avec l'évolution de la société française. Donc, on a des gens qui ont créé des sociétés de tech. On a un jeune militaire extraordinaire cette année. On a une cardiologue. On a le consul de France à Boston. On a également une jeune femme qui a développé un site internet de support à des activités en Afrique.
Et s'il y en a qui vous écoutent, là où qui vous regardent, Alain Papias, il faut qu'ils écrivent et qu'ils envoient leur CV à qui? Comment ça se passe?
Alors, il faut qu'ils aient plus de 30 ans, moins de 40 ans, et au moment des recrutements, quelque part, je crois que le jury regarde à peu près 150 candidatures. Les ouvertures de candidatures se passent à peu près au mois d'avril.
Voilà, donc vous voyez,
par Internet. Les interviews sont par Internet, s'est digitalisé, et ensuite, il y a une sélection très sélective, hein, puisqu'on prend 10 personnes sur 150, à peu près pareil aux États-Unis, des gens formidables.
Juste un mot, dans un an, pile poil, l'élection américaine, ça a un effet très très important pour nous tous.
Oui. 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 Ça va être une élection compliquée.
C'est compliqué. Si c'est Donald Trump, ça sera vraiment très compliqué.
Oui, compliqué parce qu'aussi, je crois que l'Amérique n'échappe pas quelque part à un choix de société. Et que les deux partis vont sûrement s'affronter durement dans le cadre de cette élection. Je crois que c'est à regarder de près pour voir finalement vers que veut le peuple américain en matière de développement, un peu plus de social, un peu moins de social, quel type de capitalisme. Ça va être une année passionnante, et d'ailleurs que la Fondation va suivre de très près, et on continuera à faire venir des intervenants américains. On est totalement apolitique, donc on fait venir et des démocrates et des républicains pour nous donner leur point de vue.
Merci beaucoup. Alain Papias, président de la French American Foundation, est donc un des piliers de BNP Paribas, et président notamment du conseil d'administration de BNP Paribas aux États-Unis. Grande-Bretagne aussi, le Brexit, ça va? C'est pas le...
C'est normalement résultat dans quelques semaines.
Oui, donc pas trop inquiétant.
Je crois que les choses progressent.
Voilà, langue de bois, mais parce que c'est dire que c'est très compliqué.
C'est très compliqué.
Merci d'avoir été avec nous dans un instant. François Barraud, patron de l'IDAT, avec lui, on parlera de la 5e génération, de la 5G. Comment ça va changer absolument nos vies et notre business? On voit ça tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est François Barrault. Il est président de l'IDAT, un think tank, un grand think tank européen, justement, sur les enjeux du numérique. François Barrault, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous publiez un livre blanc sur la 5G et puis aussi, vous êtes penché sur les grands thèmes du numérique, puisque c'est sur lequel, ce sujet sur lequel vous travaillez depuis de nombreuses années, sur l'enjeu du numérique, de l'Europe numérique. On a perdu une bataille, c'est clair, mais est-ce qu'il y en a d'autres à remporter d'ici 2030? En tous les cas, vous avez des scénarios. On voit ça tout de suite. Je voudrais peut-être d'abord commencer par la 5G. Très important. Le président de la République, qui est en Chine, là, il vient de faire sa conférence de presse, il a dit que c'était un élément de souveraineté. Si nous n'avons pas un regard sur ces technologies, c'est notre souveraineté qui est en jeu. Bon, il l'a cité sans le citer, tout en le citant, Huawei, évidemment, mais pas seulement. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ?
Oui. En fait, qu'est-ce qui va se passer dans la 5G ? On va avoir des milliards d'objets connectés, donc le réseau va être très facilement pénétrable, mais pas forcément au niveau de la 5G, mais au niveau de tous les capteurs, les sensors, etc. Donc, effectivement, sans citer Huawei ou Pierre, Paul ou Jacques, il faut absolument créer un environnement sécur pour les données sensibles, notamment.
Oui, donc il a raison. Cela dit, la 5G en France, on est en retard. Hein. En retard. Vous êtes en Belgique, hein, déjà, et puis vous êtes un think tank européen. Oui. On est en retard par rapport aux autres ?
Alors, on est en avance sur les tests. On est deuxième meilleur pays européen. On a à peu près 250 tests, qui sont faits d'ailleurs avec les villes, les régions et les équipementiers. En revanche, sur tout ce qui est auction, c'est-à-dire mise sur le marché des fréquences, là, on est en retard. On pense que ça sera entre 1 milliard et 2 milliards, 1 milliard et demi et 2 milliards.
Enfin, c'est une fourchette assez large, hein, si je puis me permettre.
Mais
quand même,
il faut savoir que le premier opérateur 5G, ELISA en Finlande, a été lancé hier, qu'en Allemagne, en Angleterre, ils sont en avance, que les fréquences ont été attribuées. Donc, il faut qu'on se remue.
Et en fait, nous, c'est quoi le calendrier ?
Alors, le calendrier va être annoncé par le régulateur et ça commence par l'attribution des fréquences, comment, les conditions, etc.
Oui, mais c'est quand, je pense, c'est maintenant.
Ben, on attend en novembre-décembre, oui. C'est un environnement complexe.
Et vous dites, si on resserre un peu votre fourchette, ça sera en quoi ?
Entre 1 milliard et demi et 2. Ce qui est nettement moins que certains pays, on était plutôt à 8 milliards ou d'autres à 4 milliards.
La 5G, c'est très important parce qu'on voit bien que, notamment pour l'industrie, l'économie, parce qu'il y a des fonctionnalités qui n'existent pas du tout aujourd'hui. Hein.
Absolument. En fait, dans notre vie quotidienne, la 5G ne va pas changer grand-chose, sauf pour les gamers ou pour les visites, la réalité virtuelle, pardon, la réalité augmentée. En revanche, ça va changer énormément pour tout ce qui est industrie. On va d'abord une vitesse, on va être entre 1 et 10 gigabits. On va diminuer la latence par 50, c'est-à-dire qu'on va être bien meilleur que le réflexe humain. Hein. On va parler de 50 millisecondes à 1 milliseconde. Et surtout, on va pouvoir connecter 1 million d'objets sur une borne. Mm-hmm. Donc ça va complètement changer la manière dont les industries...
Est-ce qu'en France, on peut le faire, ça, ou même en Europe, on peut le développer, avancer sans Huawei ?
Alors, il y a beaucoup de débats sur Huawei. Moi, je reste sur des points scientifiques. Hein. Je sors des débats anxiogènes, ou la guerre froide, ou la guerre sino-américaine.
Oui, non, on reste sur votre terrain, justement.
Je pense que Huawei a une avance technologique, et c'est vrai que sortir Huawei de l'équation, c'est potentiellement prendre du retard pour nous. Mais après, c'est un choix qui est politique, un choix stratégique. Vous voyez, la grosse différence entre la France et l'Allemagne, quand on parle de technologie en France, on pense aux start-up, on pense à French Tech, etc. En Allemagne, on pense à l'industrie. La tech, c'est l'industrie. Pourquoi ? Parce que l'économie allemande veut être compétitive par rapport aux Chinois, veut produire plus de
Huawei. Ah oui, mais s'ils développent leur 5G avec Huawei, les Allemands ?
Ah ben, ils développent avec Huawei, avec tous les constructeurs. Il n'y a pas de Huawei-phobie particulière en Allemagne. Et on reçoit
d'ailleurs... Oui, mais jusqu'où ? Voilà, c'est là où on voit bien qu'il y a un curseur. En tous les cas, c'est ce qu'expliquait Emmanuel Macron et on comprend bien sa logique.
Oui, mais vous savez... Moi, je suis dans cette industrie depuis longtemps. J'ai opéré beaucoup de réseaux. On est espionné depuis 20 ans. Quand vous prenez en photo avec votre iPhone ou smartphone, tout le monde sait ce que vous faites, où vous êtes, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de preuves tangibles. Je ne suis pas en train de défendre Huawei, mais je reste sur le point scientifique. Il n'y a pas de preuves matérielles ou scientifiques que Huawei a espionné Pierre, Paul ou Jacques. Et si on commence d'ailleurs à regarder cela, qu'envers les services secrets, tout ce qui se passe aujourd'hui sur votre iPhone.
Oui, mais si tout le développement, justement, le secret défense, tout ce qui est lié au fonctionnement d'un État, tout ce qui est militaire, dépend de Chinois, c'est assez logique, j'ai envie de dire, même si ça dépend aussi d'Américains.
Hein. Oui, bien sûr, mais un réseau est complexe. Hein. Il y a des, ce qu'on appelle des VPN, c'est-à-dire des réseaux cryptés, protégés, il y a des services. Après, il faut partitionner le risque. Effectivement, il y a ce qu'on appelle le edge network et le core network, et on peut tout à fait isoler une partie du réseau. Il n'y a pas de problème. Alors moi, je suis pas en train de défendre tel ou tel industriel. Je pense d'abord à mon pays, la France. Hein, je suis français, et je ne souhaite pas que la France ait un retard industriel en déplaçant l'arrivée de la 5G.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler, parce que justement les trois étapes, parce que vous le dites dans votre livre blanc, ça peut peut-être nous rafraîchir un peu la mémoire, dans le cas, nous mettre en perspective les trois étapes du déploiement de la 5G en France. Alors donc là, l'attribution, ok ?
Oui, il y a l'attribution. Après, il y a une première vague où on va augmenter sensiblement la vitesse de transmission. Mais la vraie 5G qui sera en 2024-2025, où là, on aura des vitesses de 1 à 10 gigabits, on aura des temps de latence qui sont divisés par 50, et là, ça va être vraiment une révolution industrielle.
Ouais. Donc, il faut attendre 2023-2024.
Alors, attendre, je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que vous avez, en Chine, ils ont lancé la 5G. Il y a des universités ou des entreprises qui tournent entièrement en 5G. La course est partie. Hein. Donc, chaque semaine, chaque mois, chaque année que l'on où l'on attend, on a un retard industriel que l'on va payer à un moment donné. Oui.
D'accord. Donc, de ce point de vue-là, vous dites à la France, il faut accélérer.
Oui, et d'ailleurs, sur la préface de notre livre blanc, en rouge, on a écrit une priorité pour la France. Oui. C'est la première fois qu'en tant que think tank, on prend position. Parce que nous, on éclaire...
Oui, j'ai envie de dire, c'est difficile de ne pas... le contraire était étonnant.
Absolument. Oui. Mais c'est une priorité non ppas pour le consommateur, mais pour notre industrie.
Oui, c'est-à-dire que
si on veut continuer à produire des avions, des voitures, ou avoir des maintenances de centrales nucléaires optimum, ou pour la SNCF, il faut absolument implanter la 5G le plus rapidement possible.
Alors sinon, l'autre volet intéressant, l'autre grand travail que vous avez produit, c'est ce qui va se passer en 2030 sur les géants Internet, sur comment l'Europe et la France peuvent redevenir un leader dans le secteur du numérique. Alors vous dites, de manière, la bataille des services à Internet, tout ça, on l'a perdu. C'est quoi les scénarios pour que... Et sur quoi la France, l'Europe de l'Internet peut reprendre un peu la main?
Alors, prédire à 10 ans ou 11 ans l'avenir, hein, où chaque année compte 10 années, c'est comme si on parlait de siècles. Hein. Donc nous, on s'est amusé à d'abord comprendre ce qui se passait en ce moment. Il y a en fait une synchronisation des horloges entre les technologies. Il y a l'arrivée de la 5G, très importante. Il y a la nouvelle génération de sensors, de caméras, d'ordinateurs quantiques ou de stockage infini. Et la dernière génération de logiciels. Donc cette synchronisation va complètement bouleverser le cercle vertueux de la technologie qui change nos usages et qui change derrière les business models. Donc là, on va assister à une révolution absolument incroyable, non pas chez le consommateur, mais plutôt dans le B2B.
Oui, alors où est-ce qu'il faut aller? Où est-ce que l'Europe peut exister?
Parce que le GAFA, tout ça, vous allez dire c'est... On a regardé en fait quatre scénarios. Premier scénario qu'on appelle le Startup Continent. Le Startup Continent, ça veut dire que des grandes entreprises...
Ceux qui n'ont rien à la télévision peuvent les regarder.
Absolument, s'allier avec des petites sociétés, comme la SNCF a fait, par exemple, en disant... C'est vrai que je transporte des voyageurs, mais je peux aussi les transporter en bus, en voiture, à vélo, peu importe. Et ça, donc, c'est une incubation des startups dans des grands environnements. Après, il y a un aspect souveraineté. On se protège, donc on crée un environnement plutôt sécurisé, où les données sont souveraines, le citoyen se sent protégé, etc. Mais ça, c'est un peu réducteur, on n'est pas ouvert au monde, et la souveraineté, on va tendance à s'isoler. Après, il y a ce qu'on appelle le low cost, l'ubérisation, c'est-à-dire que le service où les données sont dans les mains des GAFA, hein, on l'a vu avec Uber, ou les grandes chaînes d'hôtels qui aujourd'hui, ce qu'on appelle top of mind, hein, si je veux réserver un hôtel, je vais sur Booking, je n'appelle plus la chaîne d'hôtels. Donc c'est le scénario low cost. Et après, il y a le scénario chasse en meute, c'est-à-dire que les grandes entreprises s'associent par verticaux. On l'a vu par exemple en Allemagne avec les voitures. Donc sur ces quatre scénarios, il y en a un qui est très probable,
C'est le low cost, absolument.
Ouais. Parce qu'il y a une telle avance, et les usages ont complètement changé aujourd'hui. Il y en a un qui est souhaitable, absolument, de notre point de vue, qui est la chasse en meute. Donc, par exemple, les constructeurs automobiles allemands se sont associés pour partager leurs données et non plus utiliser un tiers aux États-Unis pour le faire, ou alors le transport maritime.
Ouais. Donc, un point là-dessus, juste, vous avez vu, j'imagine, bien, puisque c'est à Bruxelles en plus, François Barrot, vous avez vu les déclarations de la commissaire Margrethe Vestager, qui a fait pas mal de bruit en France, sur sa vision des champions industriels. Elle dit que c'est un petit peu old-fashioned, c'est une ancienne vision de voir des champions européens, qu'il faut un écosystème avec des grands, des petits, des moyens. Est-ce que si on l'applique au numérique, elle a raison ?
Ben, quand on regarde, vous parliez tout à l'heure de train, on a loupé le train de l'Internet, du cloud, et aujourd'hui, il faut que nous soyons très vigilants pour ne pas louper le train de l'intelligence augmentée ou artificielle, etc. Dans les 28 pays membres aujourd'hui, ou 27, ça dépend comment on le voit, la topologie des réseaux de la technologie est très différente. Donc, on ne peut pas avoir un système qui marche pour tous les pays. Ça, c'est pas possible.
Oui, sauf qu'il y a un truc qui s'appelle l'Europe. Enfin, ça, l'Europe de l'Internet, c'est peut-être pas encore pour tout de suite. Merci beaucoup, François Barrot. Et puis, pour ceux que ça intéresse, vous organisez votre grand colloque. Je crois que c'est le 20 novembre. Hein,
20 novembre, à la Mutualité.
À la Mutualité, comme ça. Voilà, c'est pour tout le monde. Merci beaucoup, François Barrot, d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va rester un peu dans votre univers parce qu'on a des pionniers de la transformation numérique. Il a cartonné, c'est Bernard Charles, le patron de Dassault Systèmes. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Bernard Charles, directeur général de Dassault Systèmes. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est un jour important pour vous puisque vous avez, ça y est, enfin finalisé, signé la dernière page pour l'acquisition de l'américain Medidata, 5,7 milliards, hein, donc la plus grosse acquisition de l'histoire de Dassault Systèmes. Vous nous direz dans un instant pourquoi c'est important. Juste, d'abord, vous n'êtes pas en Chine avec le président Macron. La Chine, c'est pas important pour Dassault Systèmes?
La Chine est important. On a fait une croissance de près de 20% au troisième trimestre, donc c'est très important comme croissance. Mais on a un membre du comité exécutif qui est présent en Chine comme un autre d'ailleurs.
Et vous avez préféré être avec nous. On vous en remercie, voilà, Bernard Charles. Est-ce que, j'en parlais à l'instant dans le RH, les déclarations de Margrethe Vestager sur les champions industriels, dans votre secteur, est-ce que vous pensez qu'elle a raison? C'est-à-dire toutes les tailles sont bonnes ou il y a quand même une course à la taille indispensable?
Je pense que ça doit s'inscrire dans le temps. Le plus important pour l'espace européen, c'est de comprendre que l'espace européen est un espace dans lequel nos marchés doivent se positionner pour être concurrents par rapport aux autres grandes zones économiques. Je pense en effet que sur l'aspect technologie numérique au sens très large, toutes les tailles, il y a tellement d'innovations possibles et de champs de besoins si importants que la taille n'est pas le seul paramètre. D'ailleurs, Dassault Systèmes en est la preuve. 10 avions sur 10 sont faits avec les logiciels Dassault Systèmes aujourd'hui. C'est une position enviable, enviée. Ça montre qu'on peut faire des leaders européens mondiaux, et on est leader mondial aujourd'hui dans notre secteur, et on a bien l'intention d'étendre cela à la santé, par exemple. On va en parler dans quelques minutes. Donc, en effet, c'est des problèmes, vous savez, ce sont des problèmes de cycle. La techno, tout le monde dit que ça évolue vite. Ce n'est pas tout à fait vrai. Les premiers téléphones portables, c'est il y a 20 ans, 25 ans. Enfin, on parle quand même de cycles qui sont plutôt des cycles de 10 ans que des cycles de 2 ans.
Oui, en même temps, ça s'accélère beaucoup.
Je ne partage pas ce point de vue.
Ah bon ?
Je ne partage pas ce point de vue. Je pense que ça prend du temps d'installer. Je me souviens des interviews il y a 20 ans, plus de 20 ans, quand on parlait de la possibilité de commander un transport avec un téléphone. Mm-hmm. Bon, c'est opérationnel 15 ans plus tard. Donc, ça prend du temps de mettre en place ces éléments, d'inventer des nouveaux services. Et je pense que c'est la carte qu'on doit jouer. La carte qu'on doit jouer, c'est développement durable, innovation et numérique au service d'une économie durable.
Justement, quels sont, si on essaye, parce que ça va nous conduire évidemment à l'acquisition de Medidata, donc, parce que là c'est les sciences de la vie et c'est un changement majeur pour Dassault Systèmes et c'est un changement majeur aussi pour nous.
De la mécanique au vivant.
Oui, absolument.
De la mécanique au vivant.
Tout à fait. Les grandes tendances pour vous aujourd'hui, Bernard Chalas, c'est quoi? Où est-ce que vous voyez les grandes transformations?
Les grandes transformations, à mon sens, début du 21e siècle, c'est une renaissance fondamentale de toutes les industries, de toute l'industrie. Comment ? Par reconstitution des écosystèmes et par reformulation des offres. C'est des nouvelles catégories d'acteurs qui servent des nouvelles catégories de consommateurs ou de clients. Prenez l'exemple de la mobilité électrique. Ce sont bien des nouvelles entreprises qui ont amorcé le mouvement de manière gigantesque, un nombre incroyable d'acteurs dans la Silicon Valley, qui auraient pensé qu'un secteur à fort investissement allait être secoué par des nouveaux acteurs. Vous voyez la même chose dans la mobilité au sens large, dans la construction, avec des nouveaux types d'architecture. Donc, il y a une redéfinition de ce que c'est l'industrie. Et pourquoi ? Parce que ça va être guidé par l'aspect durable, c'est-à-dire l'aspect précaution à transformer la matière et à polluer moins. Et ça va être aussi guidé par la rapidité à être adoptée par le plus grand nombre. Donc vous avez une nouvelle forme de ville, l'urbanisation d'une nouvelle forme, beaucoup plus conviviale.
Nouvelles usines, nouvelle forme de ville.
Nouvelles usines, nouvelle formation des compagnons. Et prenez la France avec nos postes, nos centres d'accélération dans les régions. Il vise à faire qu'un technicien devienne ingénieur. Un technicien devenant ingénieur grâce à du numérique et des plateformes comme Dassault Systèmes, c'est réduire de 20 à 25% des coûts de production. Donc on voit bien là que ça a un impact économique considérable. Enrichissement du travail, ça fait partie d'ailleurs de ce que à la fois le ministre Pénicaud et le ministre Blanquer veulent faire dans la formation continue et la formation initiale.
Et vous êtes très impliqué justement sur cette filière-là, Bernard Chalas. Vous avez l'impression que ça donne déjà
Je trouve qu'il y a des initiatives qui donnent des résultats. Le Premier ministre avait annoncé ces centres d'accélération il y a à peu près un an. Ensuite, ça a été accompagné par les réformes de la formation, la formation continue. Les réformes désormais de l'enseignement, ces pôles de formation. Moi, je trouve qu'il y a là un vrai mouvement et il est essentiel parce que ça rend les gens plus... Ça revalorise les métiers. Prenez l'exemple de ce qu'on fait avec Naval Group, où on forme des chaudronniers avec des nouvelles techniques métiers. On revalorise les métiers, on rend les gens plus capables de faire des choses. Et donc ça existe dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans la construction. Et c'est le rôle de Dassault Systèmes de faire cela.
Tiens, justement, j'ai une petite question, après on passera à la médecine. Vous êtes très présent dans l'aéronautique, c'est l'histoire de Dassault Systèmes, de Dassault tout court et de Dassault Systèmes, bien sûr. Vous êtes très présent aussi dans le... je crois que c'est même vos plus gros postes chez le secteur automobile. Le rapprochement, là, PSA, Fiat Chrysler, ça peut avoir un impact pour vous ou pas ?
Ah, ça a un impact positif.
Ça fait un client en moins, éventuellement, non ? Je ne sais pas.
Voilà ce qui s'est passé. Vous prenez l'exemple de la transformation incroyable numérique de PSA. 9 milliards de bénéfices l'année dernière. C'est le voyage enclenché, poursuivi par Carlos Tavares, mais déclenché par Guillaume Faury quand il était à l'ingénierie, où il a dit « je vais transformer radicalement le processus de création des voitures et de développement ». Ça a donné des résultats formidables. L'acquisition d'Opel s'est faite immédiatement par un déploiement des plateformes 3D Experience de Dassault Systèmes chez Opel, alors qu'ils utilisaient un autre système. Pourquoi ? Partage des plateformes, partage des composants et performance. Je n'imagine pas autre chose dans la nouvelle logique. Et je pense que Carlos Tavares sait exactement de quelle manière il va reconstituer un portefeuille produit. D'accord. Et une réutilisation des plateformes pour des investissements en mobilité du futur.
Ouais, ok, donc ça en fait d'autres pour vous, hein, en l'occurrence. Alors, Medidata, en l'occurrence, 5,7 milliards, hein, donc c'est important. Dollar, euro ?
C'est à peu près équivalent, à quelque chose près.
Grosse acquisition, surtout c'est un mouvement très important, parce que c'est l'avenir de Dassault Systèmes qui se joue là-dedans.
On passe de la mécanique au vivant.
Oui.
Nous avons fait des grandes étapes. La modélisation du cœur pour la chirurgie, des professeurs réputés dans le monde, par exemple l'Institut de chirurgical des enfants à Boston, qui utilise notre plateforme pour planifier les pratiques médicales. les planifier et les mettre en œuvre. On a l'intention de faire cela pour tout ce qui est le jumeau numérique de l'être humain.
Et donnez-nous un exemple. C'est quoi mon jumeau numérique ?
Ben, jumeau numérique, admettez que vous devez faire une opération délicate sur le cœur ou vasculaire ou autre. Comment vous allez la planifier ? Comment vous allez vous y prendre pour vous entraîner sur un être humain qui n'est pas monsieur quiconque, c'est une personne particulière. Oui, une personne particulière, avec des caractéristiques particulières. Eh bien là, vous pouvez, grâce à nos plateformes de virtualisation, à cet univers de représentation, planifier, organiser, préparer aux gestes et vérifier que ce que vous allez faire va être efficace. Et il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas à l'échelle moléculaire, c'est-à-dire que quand vous inventez une nouvelle médecine, par exemple une nouvelle molécule, on puisse regarder les effets exacts sur les molécules du corps humain. C'est ce qui est en cours. Et Medidata, ce sont les tests cliniques, c'est-à-dire la capacité à regarder l'efficacité et la sécurité d'un médicament dans ces tests, qui, avec des collections de données gigantesques, c'est une des plus grandes bases de données au monde sur les données de santé liées aux tests des médicaments. Donc vous imaginez bien
que ceci nous offre... Donc pour vous, en fait, là, vous récupérez des datas, et si j'ai envie de dire, c'est Dassault Systèmes après qui va mettre les outils nécessaires pour exploiter ces datas.
Nous allons à Dassault Systèmes connecter ces données avec des modèles.
Avec vos logiciels.
Avec nos logiciels. Ouais, d'accord. Et ceci doit permettre de. Le challenge de la santé aujourd'hui, c'est la réduction des coûts. La réduction des coûts va se passer par une organisation plus industrielle et centrée patient, par une médecine personnalisée, et puis par des nouvelles découvertes sur les biotech, par exemple, et les équipements. Prenez par exemple BioSerenity, une start-up magnifique en France, qui fait des bonnets pour pouvoir surveiller les problématiques de crise d'épilepsie. C'est un problème délicat. Avec ces objets intelligents connectés, vous pouvez suivre le déclenchement du phénomène. Et ce que l'on fait par exemple avec l'Institut du cerveau à Marseille, qui est un institut prestigieux, mondialement reconnu, on passe de living heart, le cœur vivant, à living brain, le cerveau vivant, parce que poser les sondes dans le cerveau, c'est extrêmement délicat et ça nécessite une virtualisation.
Et puis c'est encore, j'ose pas dire un terrain vierge, mais en tous les cas, on connaît pas encore le fonctionnement exact du cerveau. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à développer.
C'est d'ailleurs vrai
pour beaucoup de choses, mais le cerveau, c'est particulièrement vrai. En plus, c'est ce qui nous fait fonctionner. Alors comment ça va se passer l'intégration si on devient un peu plus prosaïque maintenant que vous nous avez emmené un peu dans le monde du futur?
C'est un magnifique laboratoire, une équipe scientifique d'associés. Ce système est aussi, je rappelle, travaille sur des bases scientifiques. Le logiciel, il est d'abord sur des bases scientifiques. Vous ne faites pas décoller un avion par hasard. Il faut le simuler. Il en est de même pour tout ce qui est protocoles médicaux. Basé à New York, avec des laboratoires dans le monde, 2500 personnes. Ça a été connecté en 24 heures. Et on a une même vision, c'est-à-dire faire le jumeau numérique de l'être vivant et de la matière vivante, des tissus, des organes, des cellules. Et ils ont le savoir-faire sur les données et les tests cliniques qui se passent dans les hôpitaux. Nous avons un savoir-faire unique dans la représentation.
Mais le marché, il est partout, on est d'accord. Ça, c'est le marché, là, vous rachetez aux États-Unis, mais ça va vous servir pour la France, pour l'Europe, partout.
Medidata est leader mondial dans les tests cliniques. Les tests cliniques, ça prend la moitié des investissements, pour vous donner une idée. Il y a près de 10 ans de développement pour une nouvelle molécule. La moitié est en test clinique. Et sur 3 milliards ou 4 milliards, la moitié du coût est dans les tests cliniques. Donc vous voyez, et le brevet dure 20 ans. Donc il faut aller assez vite si vous voulez être protégé suffisamment longtemps. Donc l'objectif, c'est justement de changer cela. Et il faut dire que le secteur de la santé est très en retard en numérisation. Il y a une numérisation documentaire du dossier, et encore. Mais la numérisation sur la compréhension du phénomène, le faire de la télépratique, pas de la télémédecine, de la télépratique, c'est-à-dire la chirurgie à distance, etc., c'est le monde de demain, ça va changer le modèle économique. Les plateformes de santé vont devenir un standard mondial.
Vous avez publié, on va faire le lien tout de suite, vos résultats trimestriels aujourd'hui. On voit, la bourse était un petit peu mitigée, on va dire, parce que petites inquiétudes, en l'occurrence sur les nouvelles licences au troisième trimestre. Comment est-ce que vous allez, on va revenir sur vos chiffres, mais comment est-ce que vous allez intégrer Medidata? Combien de temps?
Le Ça démarre immédiatement. C'est-à-dire que vous avez la phase recherche, développement, production du médicament et vous avez sa phase de test dans les hôpitaux. Oui. Donc, dès à présent, nos clients communs vont pouvoir tirer avantage de la connexion des systèmes. Donc, on n'a pas des conditions d'attente dans la connexion de notre système. Ça va être fait très rapidement. En 2020, ça sera déjà disponible. Mais ça change radicalement les méthodes de mise au point des nouvelles thérapeutiques et des nouveaux médicaments. Et on voit que ce sont des milliards d'investissements réalisés par le secteur de la pharmacie. La médecine personnalisée, c'est-à-dire le fait de faire des médicaments pour un petit groupe de personnes, devient essentiel. Le fait de coupler ça avec des équipements personnalisés qui vous équipent, au lieu d'avoir finalement le déplacement vers l'hôpital, tout ça, ça va se mettre en œuvre grâce à ces plateformes qu'on appelle, nous, 3D Experience, c'est-à-dire le jumeau numérique de l'être humain et des pratiques qui s'appliquent à.
Oui, ce qu'on va dire, c'est 3D Experience, ça sert aussi dans l'aviation, ça sert partout.
Ça sert partout, ça sert même dans les produits de grande consommation, ouais. Ça sert dans la mode. Ouais. Vous avez noté que nous avons fait l'acquisition de Centric PLM, qui est le standard mondial aujourd'hui pour l'habillement. Avec les plus grandes marques qui en sont les clients. Mais pour revenir sur les résultats, je rappelle que nous avions annoncé un doublement de bénéfices nets par action entre 2014 et 2019. Nous attendrons cet objectif à la fin 2019. C'est un plan à 5 ans qui a fonctionné. L'EPS, le bénéfice net par action a augmenté de 20% au troisième trimestre, donc c'est une dynamique forte. Et je rappelle que notre chiffre d'affaires est un chiffre d'affaires récurrent, et non en une seule fois, et que le chiffre d'affaires en récurrent d'AssoSystem a augmenté des nouvelles licences, a augmenté de 12% au troisième trimestre. Donc, je pense qu'on est sur une dynamique de pouvoir à peu près tous les 5 ans doubler la taille de AssoSystem.
Les à la fin d'année, vous avez un chiffre d'affaires de combien? Là, c'était chiffre clé, c'était 3 milliards presque 5.
On dépassera les 4 milliards en fin d'année comme prévu, c'est-à-dire on atteindra les objectifs que nous avions annoncés.
Et donc, dans 5 ans, vous serez à combien
Alors, on va donner une visibilité sur les prochains 5 années, mais je pense que ce que l'on a pu démontrer dans les précédents cycles de 5 ans, c'est environ de doubler la performance de l'entreprise tous les 5 ans. Vous en saurez plus en février.
Oui, d'accord. Non, mais juste pour voir, parce que c'est intéressant. Là, c'est là où on voit l'impact de Medidata. Donc, j'imagine que ça peut logiquement plus que doubler votre chiffre d'affaires.
Absolument. C'est un bon ordre de grandeur.
Oui, d'accord. Plus que doubler. On est d'accord. Résultat, enfin, performance de bénéfices. Résultat.
Croissance du bénéfice de 20%, comme je vous l'ai indiqué, sur le troisième trimestre. Et ça sera une croissance au-dessus de 12% pour l'ensemble de l'année, donc comme prévu.
Oui, donc, et ça restera comme ça ensuite. Pourquoi cette petite frayeur des marchés là, sur les nouvelles licences?
Je pense que c'est juste
une petite frayeur, une déception, on va dire.
Oui, c'est à nuancer, puisque sur le début de l'année, c'est quand même une belle progression. Mais c'est simplement la répartition entre le chiffre d'affaires instantané et le chiffre d'affaires récurrent. Et ce qui nous importe, c'est le chiffre d'affaires récurrent.
Je reviens un peu. Est-ce que vous croyez, vous êtes une des plus belles réussites françaises dans ce domaine-là, la transformation numérique. En tous les cas, vous avez été un des pionniers. On a suivi ça, évidemment, sur BFM Business. Donc, c'est intéressant de voir. Vous avez petit à petit grignoté l'ensemble de l'économie. En fait, c'est plus que l'économie.
Les filières industrielles.
Toutes les filières industrielles, oui. Mais ça va, comme vous le disiez, d'un t-shirt à une voiture, à un avion, en passant maintenant par une opération sur le cœur. Jusqu'où vous pouvez aller? Qu'est-ce qui reste? Et puis les villes, là aussi, vous êtes très, très implantés. Qu'est-ce qui vous échappe encore? Qu'est-ce qui est encore comme terrain vierge pour AssoSystem? Alors, je sais bien que là, vous avez déjà à conquérir celui des sciences de la vie.
Si vous regardez trois dimensions de ce qui se fait dans le monde, il y a ce que l'être humain produit en produits physiques et services, l'industrie. Il y a toutes les sciences de la vie. Et puis, il y a les aménagements de territoire. Vous avez bien mentionné que l'aménagement du territoire, ce qu'on fait avec Singapour, ce qu'on fait en Chine, constitue. Quand vous regardez aujourd'hui, je dirais que sur l'ensemble de ces marchés atteignables, nous avons commencé à adresser et à servir que 20% du total. Donc, je peux vous dire que sur les 50 années qui viennent, notre objectif est d'être présent sur les trois grands secteurs qui sont les sciences de la vie, l'aménagement du territoire, et l'industrie. ces trois grandes sphères d'influence sont considérables. Et il faut voir que les sciences de la vie, c'est à peu près la même taille que l'industrie. Et que les aménagements du territoire, c'est-à-dire ville, infrastructure et énergie, c'est la somme des deux autres. Oui. Donc nous avons beaucoup de place pour inventer et innover. Et ce siècle va être marqué par une renaissance de la manière de faire.
Oui, ça c'est très intéressant parce que
à limite, c'est fondamental de l'imaginer.
Ça justifie une politique industrielle.
Ça justifie une politique industrielle.
En disant que même si on a perdu beaucoup de parts de marché, même si l'industrie française ne pèse plus 14%, maintenant les cartes sont complètement rebattues.
Et sont rebattues avec des opportunités considérables. Donc je pense qu'un des élans de l'Europe est de précisément d'ouvrir les yeux de tous les acteurs sur le fait que on peut tout redéfinir dans tous les secteurs, de l'énergie, de la mobilité, de la santé, de l'aménagement des villes, de l'équipement et de l'énergie. En réalité, toutes ces cartes et ces écosystèmes, c'est-à-dire ces alliances, vont évoluer de manière profonde grâce au phénomène de plateforme, c'est-à-dire de possibilités que le numérique offre.
On parle numérique, la 5G, c'est essentiel pour tout ce que vous dites.
La 5G, c'est comme l'a été Internet, c'est une infrastructure nécessaire.
Mais sans plus. Non, je ne sais pas, parce qu'on nous explique que pour l'industrie, c'est vraiment la grande innovation, alors, ça va tout changer. Donc,
j'ai un avis un peu différent de ce qui est toujours partagé sur l'affaire. Sur cette affaire, moi je pense que le fait d'avoir plusieurs internets va devenir indispensable.
Ça veut dire quoi?
Plusieurs réseaux différents et isolés les uns des autres. Je ne pense pas qu'on puisse parier sur un seul structure mondialisée d'échange. Je crois que les réseaux de sécurité pour l'énergie, les réseaux de sécurité pour les véhicules autonomes devront être différents des réseaux qui permettent de faire de l'achat et de la vente de produits, par exemple, l'Internet que l'on connaît aujourd'hui. Et moi, je pense que c'est ce qui va se faire dans les faits pour différentes raisons, problématiques de sécurité, problématiques de concurrence et problématiques de géopolitique. Car on sait aujourd'hui que le problème de surveillance des réseaux constitue à la fois une problématique de souveraineté pour les pays ou une problématique de moyens de guerre économique entre zones géographiques. Et je pense qu'il faut arrêter de penser qu'il y aura une seule infrastructure. Donc la 5G va contribuer à pouvoir faire des réseaux spécialisés, à mon sens. Ils deviennent indispensables et ça aussi, c'est rebattre les cartes.
Mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre type de réseau?
Il y a la technologie d'échange, de réseau et de communication, et il y a la façon dont vous connectez les choses entre elles. Et il faut distinguer ces deux éléments.
D'accord.
Et donc la 5G apporte une technologie vraiment intéressante, mais rien ne vous empêche de faire plusieurs natures de boucles pour gérer.
C'est indispensable, c'est intéressant.
Et ça devient indispensable. Et dans le cadre de la souveraineté des pays, il faut bien situer ça dans une logique économique et de droit. Et ces éléments-là ne sont pas aujourd'hui bien établis.
Toute dernière question ponctuelle, mais que j'ai oublié de vous poser. Vous travaillez beaucoup sur Boeing, sur le 737 MAX. Il va ressortir un jour ou pas?
Alors, je laisse à Boeing le soin d'annoncer ce qu'ils doivent annoncer.
L'impact pour vous?
Il n'y a pas d'impact pour nous. Il faut savoir que ce genre de logiciels qu'on appelle les logiciels d'aide au pilotage sont très spécifiques. Et ce que je peux dire, c'est que toute cette industrie, comme d'ailleurs les véhicules autonomes, ces technologies ont été isolées de l'objet lui-même.
D'accord.
Et que Dassault Systèmes va apporter un moyen nouveau d'intégrer. C'est en devenir.
Merci beaucoup. Toujours en voyage dans le futur avec vous, mais c'est intéressant justement. Bernard Charles, le patron de Dassault Systèmes, était notre invité. C'est la fin de l'orage. Rendez-vous demain à 8h15. Et puis bien sûr, l'orage demain. Bonne journée.